Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main Vous Fasse. L'un des symptômes du Covid-19, c'est de perdre le goût et l'odorat. La perte du goût, la gueusie et la perte de l'odorat, l'anosmie, sont de véritables pathologies qui handicapent au quotidien et qui peuvent nous mettre en danger. Ne plus pouvoir sentir une casserole qui brûle ou une fuite de gaz, ne plus pouvoir sentir son odeur ou celle de l'être aimé, ne plus pouvoir raccorder des souvenirs à des parfums, ne plus ressentir le goût d'un plat, ne plus pouvoir détecter le mauvais goût d'un aliment toxique, la gueusie et l'anosmie n'ont donc rien d'anecdotique. Nous verrons quelles sont les causes, les facteurs déclenchants et les moyens de les surmonter après une pathologie ou un accident. C'est l'occasion également ce matin de comprendre comment fonctionne le goût et l'odorat. Comment vivez-vous le fait de vivre sans goût ni odorat? N'hésitez pas à témoigner au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour docteur Adrien Chaboche.
Bonjour Ali.
Vous remplacez cette semaine notre médecin et romancier Baptiste Beaulieu. Quel est le menu de votre chronique?
Aujourd'hui, nous allons parler de ces moments où tout d'un coup, on se rend compte de ce qu'il y a d'essentiel. On va en parler dans Docteur, je le sens pas.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien Vous Fasse.
Je connais parfaitement tous ces plats, je sais d'où ils viennent, je les ai goûtés des dizaines de fois. Alors tu vas me faire goûter un de ces plats au hasard, tu ne me dis rien. Alors, allons-y. Une autre bière. Gérard, j'ai perdu le goût. Je n'ai plus la notion de saveur. J'ai l'impression de mastiquer du coton et de boire de l'eau. Souviens-toi, je pouvais reconnaître tous les ingrédients d'un plat. Maintenant, plus rien.
Mais lui, qu'est-ce que vous lui avez fait comme piqûre?
C'est prévu, docteur.
C'est dramatique, docteur, j'ai perdu le goût. Je prends du poisson, je ne sens rien, de la viande, c'est pareil, rien. Le vin, c'est de l'eau. Qu'est-ce que j'ai, docteur? Je vous en prie, dites-le-moi.
Agueusi.
Qui c'est ça?
En privatif, du grec geusis, goût, diminution totale ou partielle du sens gustatif.
Et alors?
Eh ben, ça peut être très long.
Extrait de L'aile ou la cuisse avec Louis de Funès. Bonjour Alex Vizorek.
Bonjour Ali Rabi.
Vous êtes comédien, humoriste dans la matinale et coproducteur de Par Jupiter. Vous avez fait la une de M le magazine. Quelle classe mon cher Alex.
C'est vrai.
Et vous êtes atteint d'anosmie, non pas d'agueusie comme Louis de Funès, mais d'anosmie. Vous ne sentez donc pas ma douce odeur suave?
Non, mais
légèrement musquée.
Je me suis renseigné pour préparer cette émission et les gens corroborent cette analyse dans les couloirs. Donc.
Qu'est-ce que l'anosmie en quelques mots?
C'est ne pas avoir d'odorat, donc vraiment la perte d'un des cinq sens. Mmh. Et donc, moi je suis né comme ça, enfin, certains, quand j'en parle à des spécialistes, ils me disent « est-ce que tu as eu un choc ?» Alors, peut-être bien suis-je tombé gamin, mais mes parents nient farouchement et je n'en ai aucun souvenir. Donc moi je n'ai aucun neurone qui est capable de me dire ce que c'est qu'une odeur. Donc je ne sais pas ce que c'est, et ça a été difficile à déceler, parce que autant je pense que quand on ne voit pas, et ben assez vite on se rend compte que l'enfant ne voit pas. Quand on ne sent pas, c'est plus difficile, parce qu'instinctivement, vos parents vous disent ça sent bon, et on n'a pas trop envie de les contrarier, on dit oui. Et un jour, je lui demandais ce qu'on mangeait, je devais avoir 7 ou 8 ans, et ma mère a dit, écoute, ça sent le poulet dans tout l'appartement, c'est pas normal que tu... Et je lui dis, mais comment tu veux que je le sache? Et alors, nous avons fait des tests, nous sommes allés justement chez des docteurs spécialisés qui nous ont expliqué ce qu'était l'anosmie, parce que au fond, bah, c'est très méconnu. C'est un des rares bienfaits du Covid, c'est que maintenant les gens savent que ça existe.
Bonjour Roland Salès.
Bonjour Ali.
Ingénieur agronome, chercheur en neurobiologie, spécialiste de l'odorat. Vous avez notamment publié « Faut-il sentir bon pour séduire ?» Bonjour Rach Gurden.
Bonjour Ali, bonjour à nos éditeurs.
Vous êtes directeur de recherche en neurosciences au CNRS, au laboratoire de biologie fonctionnelle et adaptative de l'Université de Paris. Bonjour Clémence Lilti-Molinier.
Bonjour Ali Rébéi.
Vous avez suivi un parcours universitaire en biologie et œnologie et vous avez terminé un master en neurosciences qui porte sur la récupération de l'odorat par l'apprentissage olfactif. Et vous venez de publier un ouvrage absolument formidable qui s'appelle « L'extraordinaire pouvoir de l'odorat » et c'est publié chez The Book. Alors qu'est-ce que l'anosmie de façon scientifique, Rach Gurden?
Ben, je pense qu'on vient déjà de le dire, c'est-à-dire c'est l'incapacité de pouvoir sentir, détecter ou se représenter des odeurs dans la vie de tous les jours.
Roland Salès, qu'est-ce qui se passe chez un anosmique?
Ah, il peut se passer plusieurs choses. Ça peut se passer dès le début, c'est-à-dire dans le nez où l'épithélium olfactif est muni de neurones qui capturent les produits odorants. Ça peut se passer dans le cerveau au deuxième étage au niveau des bulbes olfactifs. Par exemple, dans le cas d'anosmie congénitale, les bulbes olfactifs peuvent ne pas exister. Et puis, ça peut se passer aussi, alors de façon beaucoup plus difficile à comprendre, il y a un endroit du cerveau où le cerveau fait descendre comme un voile noir, en fait, sur la sensation olfactive. Et alors là, la récupération, elle est très aléatoire.
Clémence Lilti-Molinier, on l'a vu, hein, ceux qui ont perdu le goût et l'odorat pendant la pandémie à cause du Covid-19 se sont rendus compte de l'importance d'un sens longtemps méprisé, notamment au profit de la vision.
Oui. C'est vrai qu'on sollicite beaucoup le sens de la vue et moins l'odorat dans la vie de tous les jours. Mais on se rend compte que c'est un sens clé quand on le perd.
Raj Gurden.
Oui, vous savez tous, hein, nous sommes des êtres humains très branchés sur notre vision et que nous consommons et surconsommons des écrans. Et ça, c'est un problème parce que ça peut vraiment tromper tous nos autres sens, et y compris notre sens de l'odorat et notre sens du goût.
Alors, on s'intéresse ce matin aux pathologies du goût et de l'odorat. Pourquoi ces deux sens sont-ils intimement liés ?
Alors, ils sont liés parce que, notamment, quand on mâche des aliments dans la bouche, on a des molécules odorantes qui sont libérées et qui passent par l'arrière-bouche et qui remontent dans le nez. Et on a, en fait, une deuxième détection qu'on appelle rétro-olfactive des odeurs qui sont contenues dans l'aliment. Et ça se fait en même temps que ce qu'on goûte, c'est-à-dire les saveurs sucrées, salées, amères, acides ou umami qu'on a en bouche. Donc, c'est extrêmement complémentaire. Et même si on n'a qu'une trentaine de récepteurs gustatifs sur la langue, on en a quand même à peu près 400 chez l'être humain de récepteurs olfactifs dans le nez. Donc, tous ces récepteurs se complètent et donnent une image détaillée et qui va être exploitée par l'être humain.
Alors, que se passe-t-il quand je respire, quand je sens l'odeur d'une fleur ? Il s'agit de la rencontre entre une molécule olfactive et un neurone olfactif. Expliquez-nous un petit peu le parcours.
Oui, tout à fait. Alors, donc, on parle de... Ça tombe bien que vous fassiez cette analogie, Ali, parce qu'on parle souvent de bouquets. Donc ce sont des bouquets d'arômes et d'odeurs qui arrivent effectivement dans le nez, et comme Roland vous l'a expliqué, tout au fond de notre nez, vraiment au fond, c'est-à-dire on peut pas aller les gratter, ces neurones olfactifs, nous avons des détecteurs qu'on appelle des récepteurs olfactifs qui vont reconnaître différentes parties de ces molécules chimiques. Et on va avoir un système de clés serrures qui va se mettre en place, et on va démarrer un peu ces neurones olfactifs quand ces duos vont se former, et les neurones olfactifs vont être actifs et vont renseigner en fait le cerveau. Donc on va passer du nez, comme l'a expliqué Roland, du nez vers le cerveau, vers des structures qu'on appelle les bulbes olfactifs, qui sont un peu les qui vont recevoir ce signal en fait du nez et qui vont le traduire en signal neuronal pour le reste du cerveau.
Clémence Lilti-Molinier, des précisions ?
Oui, en fait, ce bulbe olfactif est très proche de l'hippocampe qui gère les souvenirs et de l'amygdale qui gère les émotions. Donc, c'est pour ça que des odeurs peuvent nous rappeler des moments précis de notre vie ou nous fournir des émotions.
Vous, Alex Vizorek, on peut pas dire que ça vous manque, puisque...
Là, je suis dans le vide, hein, pour l'instant.
Ouais, c'est ça, ouais.
Oui, mais c'est-à-dire que moi, je n'ai aucune bibliothèque olfactive. Ouais. Et c'est assez étrange, parce que souvent, les gens me disent « Mais ce serait quand même bien que tu le récupères. » Et en fait, ça m'angoisserait, je pense, terriblement. Si
pourquoi ?
Dès demain matin, on me dit « Mais je n'ai pas de référent, je n'ai pas créé un apprentissage de l'odeur. » Donc, je n'ai pas du tout fait de combat pour essayer de trouver des solutions pour le récupérer. Je fais avec, je fais attention, parce que vous avez dit c'est dangereux dans certains cas. Donc je sais qu'il ne faut pas que j'ai des plaques chauffantes au gaz, parce qu'il suffit que je sois un peu distrait et je ne me rendrai pas compte.
Vous avez eu des anecdotes de ce type-là ?
Non, pas tant d'anecdotes, mais c'est-à-dire que je sais que quoi qu'il se passe, quand par exemple je ne suis pas sûr de la date de péremption de la crème, je la fais sentir, ou si personne n'est là, je ne l'utilise pas, parce que peut-être bien qu'à un ou deux jours près, moi je ne vais pas repérer le truc. Mais en revanche, j'ai du goût. Et je suis assez content de votre explication, parce que ça me permet maintenant d'expliquer de manière un peu plus sérieuse aux gens qui pensent être gentils avec moi en me disant « Mais peut-être tu as développé le goût. » Je crois pas. Je crois que j'ai... Mais en revanche, comme c'est pas à 100% les mêmes sens, j'adore manger. Il s'avère que j'aime bien manger les choses fortes, qui ont des goûts forts.
Donc, par exemple?
J'aime bien l'andouillette.
Le maroilles?
Ouais, exactement. Mais les gens qui ont beaucoup de... Une andouillette au maroilles, c'est mon kiff absolu. Et je pense que les gens qui ont un peu d'odorat sont très angoissés, même à l'idée que le voisin en mange.
Roland Salès.
Oui. Et est-ce que vous sentez les produits piquants comme l'alcool, comme l'ail, comme l'ammoniac?
Vous voulez dire est-ce que je sens l'odeur?
Enfin, est-ce que vous ressentez quelque chose?
Alors, il y a un
un truc qui est assez fou, c'est que quand je vais citer la marque, mais quand je mets du Vicks sur le torse, qu'est-ce que c'est?
Oui.
J'ai l'impression que me rentre quelque chose dans le nez que je ne peux pas décrire.
Ça, c'est le menthol.
Oui, mais voilà. Mais bon,
du coup, Alex, vous avez une sensation de fraîcheur.
Oui, mais de quelque chose qui ne devrait pas être là, mais c'est assez spécial. Je rapprocherais ça de la menthe.
Oui, c'est ça.
Mais je suis incapable. C'est vraiment le seul truc que j'ai l'impression de me rendre dans le nez.
Oui, en fait, Ali et Alex, Roland vous amène en fait sur un troisième système dont on n'a pas encore parlé. Parce qu'il y a quand même des systèmes de secours, hein. On n'est pas que le nez.
Mais j'ai survécu, jusque-là.
Oui,
bah
oui, c'est et ça s'appelle donc un système trigéminal. Donc, c'est des sensations corporelles, c'est aussi des sensations thermiques, du chaud, du froid, le chaud avec la capsaïcine, le piment, on a chaud. Voilà, ça vient de ces récepteurs-là. Et le frais, comme dit Roland, c'est le menthol, c'est cette sensation, effectivement, de fraîcheur par, encore une fois, des récepteurs thermiques. Donc, on a une panoplie dans le nez, la bouche et les yeux, d'ailleurs, parce que quand on coupe l'oignon, on pleure, qui est dû à ce système trigéminal.
Bon, alors, ça laisse.
Oui, et même ce système trigéminal peut être utilisé pour la rééducation olfactive ou olfacto-gustative, parce que là, au moins, on sent quelque chose.
Ouais.
Donc, c'est au moins une amorce de quelque chose.
Pourquoi certaines odeurs nous sont agréables et d'autres désagréables? Pourquoi, a priori, l'odeur d'œuf pourri est plus agréable donc que le parfum d'une rose, Raj Gurden?
Alors, très clairement, dans l'œuf pourri ou le poisson pourri, on va avoir une charge en fait en soufre ou en azote qui vont être en fait des molécules toxiques qui ont souvent d'ailleurs des goûts amers. Donc, c'est pour ça que les tout petits bébés, ils aiment pas du tout les goûts amers de façon innée. Et donc, on n'aime pas du tout toutes les molécules, en fait, odorantes ou dans la gustation, qui vont contenir, en fait, ce type d'atomes qui sont toxiques, en fait, pour le fonctionnement du corps et des cellules de notre corps.
Clémence Ultimolinier.
Oui, ça va dépendre aussi de la culture, j'imagine, puisqu'on voit vraiment des populations, par exemple, asiatiques, qui sont plus attirés par certaines odeurs, comme celle du durian, par exemple, qui peut évoquer l'œuf pourri chez nous, européens. Et en fonction de là où on vient, on n'a pas les mêmes habitudes et les mêmes cultures. Et ça va avoir un impact assez important sur ce qu'on va apprécier ou détester, au contraire.
Roland Salès.
Oui, on ajoute même des arômes comme le nyokmam ou le garum, qui était en fait du poisson pourri, fermenté. Donc, on peut supporter ça culturellement, parce que c'est sûr que ça donne du goût, on va dire.
Mais il faut l'apprendre. C'est un apprentissage.
D'ailleurs, Alex Vizorek, quand on parle d'odeur d'œuf pourri, vous ne savez pas à quoi ça renvoie.
Non.
Mais est-ce que vous comprenez le concept? Est-ce qu'en observant quelqu'un qui respire une odeur désagréable par la communication non verbale, par les mimiques, etc., est-ce que vous arrivez à comprendre qu'une odeur sent mauvais?
Pire que ça, je m'adapte. C'est-à-dire, anecdote véridique, je rentre dans un métro et du côté droit, il y a des sièges libres, alors qu'à gauche, je vois vraiment des gens un petit peu entassés. Et je me dis, bah dis donc, ils n'ont pas bien regardé, je vais m'asseoir. Je m'assois et je décèle donc en face, sous le siège d'en face, un gros vomi. Et donc, moi, ça ne me dérange, mais pas du tout, évidemment. Et je voyais les autres qui pensaient, le gros dégueulasse, il va rester assis vraiment à 2 mètres du vomi. Donc j'ai fait le dégoûté un peu, parce que visuellement...
Vous avez joué au dégoûté.
Et je me suis levé, je me suis mis avec les autres, alors que très honnêtement, cette place était parfaite, et moi, ça ne me posait pas de problème.
Nicole nous écrit « Je suis anosmique de naissance, comme Alex Vizorek, et j'entends constamment des contre-vérités et des horreurs parfois, comme une personne qui peut dire qu'on ne peut aimer son enfant si on n'a pas senti son odeur quand il est né, ou bien dernièrement qu'on n'existe pas si on ne sent pas sa propre odeur. Alors je suis probablement une mère indigne et un fantôme. Je n'ai pas d'odorat, mais j'ai du goût, contrairement à ce qui se dit très souvent. » Raj Gurden sur
Nicole, vous allez très très bien. Il y a aucun souci. Le cerveau est plastique, le cerveau est modulable, et c'est pas parce que on est effectivement né sans des récepteurs olfactifs qui ne marchent pas qu'on peut pas compenser par tous nos autres sens et par toute la vie en fait que l'on a en contact de son enfant. Donc tout ça, effectivement, et la raison, Nicole, c'est des horreurs et qu'il faut pas absolument pas croire.
Clémence Ultimolinier.
Oui, c'est vrai que le lien entre la mère et l'enfant peut s'établir par l'odorat, surtout au début à l'accouchement et puis plus tard. Mais on peut le compenser finalement grâce au toucher, avec le pot à pot et plein de techniques en fait qui permettent de pallier cette absence d'odorat.
Nina nous demande si les hommes et les femmes sont égaux en matière d'odorat, et est-il vrai que les femmes disposent de seuils de perception plus bas? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet, Clémence Ultimolinier?
Alors c'est vrai qu'on se rend compte, notamment au niveau des cycles des femmes, que le seuil de perception peut être différent en fonction de la période. Par contre, quand on s'amuse à faire des tests assez rigoureux, on peut pas conclure rapidement sur une meilleure aptitude chez la femme par rapport à l'homme. On va dire que chez la femme, ce sera un peu plus cyclique.
Roland Salès.
Il y a quand même une donnée dans la littérature scientifique qui est malheureusement obtenue sur des cadavres, mais on s'aperçoit que le bulbe olfactif des femmes est deux fois plus gros, contient deux fois plus de neurones que le bulbe olfactif des hommes. Ça ne veut pas dire qu'il y ait vraiment une supériorité, parce que de toute façon, avec déjà 9 millions de neurones par bulbe, ça suffit déjà pour faire beaucoup de choses. Les femmes, on aurait de l'ordre de 16 millions. Mais néanmoins, disons, ça donne un support physiologique à peut-être une meilleure sensibilité olfactive.
Roland Salès parlait de cadavres. Clémence Lulti-Molinier, dans votre livre, vous expliquez qu'il y a deux molécules olfactives que nous percevons avant même de les avoir rencontrés, ces deux molécules caractéristiques de la mort, la putrescine et la cadavérine, des odeurs qui nous révulsent, que qu'Alex ne peut pas connaître.
Je mourrais peut-être pas.
Et Clémence Lulti-Molinier, sur ces deux molécules olfactives.
Oui, je pense qu'on a tous un petit peu fait l'expérience un jour ou l'autre d'être face à ces odeurs où vraiment là, on va ouvrir son frigo et puis se rendre compte qu'on a attendu trop avant de consommer un aliment comme une viande ou quelque chose comme ça. Et je pense que ça fait l'unanimité quand on sent ça, on a juste envie de le jeter à la poubelle et puis de passer à autre chose et de cuisiner quelque chose d'autre.
Raj Gurden, cette hypersensibilité à ces deux molécules, la putrescine et cadavérine, c'est lié à l'évolution, j'imagine, évidemment.
Bah oui, il y a toute une panoplie de molécules qu'on veut absolument éviter parce que qui sont signes effectivement de toxicité et de danger, et l'odorat est effectivement un sens de protection absolue par rapport à ça.
Et nous accueillons Marie-Laure Zonshein, chef du service actualité de Femmes Actuelles. Vous êtes là d'habitude le mardi, ma chère Marie-Laure, bienvenue.
Merci, bonjour Ali.
Alors vous avez eu le Covid au tout début, il y a une quinzaine de mois. Vous avez perdu le goût et l'odorat. Vous êtes guéri et vacciné, sauf que vous n'avez pas retrouvé le goût et l'odorat. Et ça dure depuis donc à peu près 15 mois, c'est ça ?
Un petit peu moins, mais disons qu'effectivement j'ai une forme très très légère, hein, une demi-matinée, quelques heures à peine de courbature, un test PCR parce que je me doutais bien que c'était ça, effectivement test positif, et puis c'est tout. Et très vite, j'ai perdu le goût et l'odorat, d'abord totalement, quelques jours, et puis ça a commencé à revenir, donc je ne me suis pas spécialement inquiétée, me disant, ça y est, je suis sur une pente ascendante, ça va revenir. Sauf que, quand on me pose la question, je dis assez simplement, sur une échelle de 1 à 10, j'ai l'odorat de 3 sur 10 et le goût 2 sur 10. Donc, vous voyez, c'est quand même pas terrible. Hein. Mmh. Et c'est comme ça depuis des mois, il n'y a aucune évolution. Et j'ai une question pour vous inviter, parce que vraiment, je l'ai vécu, beaucoup de personnes m'ont dit la même chose, c'est la transformation des goûts. Et précisément, notamment des fruits, le melon, l'ananas, alors dans les légumes, le concombre, ont un goût absolument épouvantable, que je qualifierais d'un peu métallique. J'ai l'impression d'avoir des boulons dans la bouche.
Raj Gurden.
Oui, d'abord, ce que je vais vous conseiller quand même, depuis le temps que vous en souffrez malheureusement, c'est de faire une rééducation olfactive. Et aujourd'hui, on a des méthodes, on a des protocoles. Je vous conseille d'aller sur le site web de l'association anosmi.org où on a ce protocole qui a été téléchargé plus de 100 000 fois. Donc vous êtes énormément nombreux, en fait, évidemment, en post-Covid, à avoir perdu l'odorat et le goût. Donc il faut absolument vous aider vous-même et faire ces protocole parce qu'on a de 60 à 70% de personnes qui nous disent avoir une meilleure sensibilité olfactive 3 mois après s'être rééduqué tous les jours à la maison. Et donc il y a vraiment un espoir là pour toutes les personnes comme vous qui souffrez énormément de ces problèmes-là. Maintenant, tout ce que vous décrivez sur une espèce de, on va dire, de cacosmie, c'est-à-dire de ressentir vraiment ces goûts un peu dégueulasses, si je puis dire, si j'emploie un mot comme ça, c'est une modification complètement de vos récepteurs et de votre sensibilité gustative qui a été fracassée par le Covid. Et en fait, les systèmes essaient de se remettre en place comme ils peuvent, ces systèmes sensoriels. Et malheureusement, au début, alors ça peut être aussi vu comme un signe positif, au début, il y a des confusions. C'est-à-dire, c'est vrai pour les odeurs et pour les goûts, on va se dire, on sent telle odeur, mais non, en fait, c'est pas celle-là. On sent tel goût, et en fait, non, ce n'est pas celui-là. Mais ça veut dire que le système est encore capable de récupérer, et pour l'instant, il ne fonctionne pas bien, on dit il dysfonctionne, et vous pouvez, par la rééducation, le faire fonctionner correctement. Donc du coup, c'est même un espoir, en fait, ce que vous dites, même si c'est très difficile à vivre.
Clémence Lilti-Molinier.
Oui, et puis quand on perd l'odorat pendant longtemps, souvent on perd confiance en nous. En fait, on va se poser la question, est-ce que je sens, est-ce que c'est vraiment ce que cet objet ou cet aliment sent ? On peut par exemple être curieux du matin au soir en se remettant en question et en se disant est-ce que je sens différemment d'hier ce produit-là par exemple, et tous les jours sentir, prendre le temps de se concentrer quand on sent son café ou son thé le matin jusqu'au soir, finalement tout ce qu'on va faire quand on va marcher, quand on va faire ses courses, etc.
Et juste aussi pour nos auditeurs, il y a aussi une application web qui s'appelle covidanosmie.fr pour vous accompagner en fait dans cette rééducation olfactive, et ça va vous faciliter la vie.
Et on y reviendra en fin d'émission. Marie-Laure Zonshine, vous avez éprouvé une forme d'angoisse à l'idée de ne jamais retrouver le goût du melon, le parfum des roses. Qu'est-ce que ça a provoqué d'un point de vue psychologique ?
Oui, alors angoisse, c'est peut-être un peu fort. J'ai l'espoir que ça revienne parce que précisément certains goûts subitement me parviennent et je pense que ce sont ces vrais goûts-là ou ces vraies odeurs. En revanche, quand on passe à table aujourd'hui, et heureusement, on parvient tous à se réunir, à partager un bon repas, c'est une vraie frustration. Un bon verre de vin, je ne le sens pas, c'est-à-dire que je vais prendre un verre, fermer les yeux, je ne sais pas ce que je bois, je sais que c'est du vin parce que je le vois. En revanche, en fermant les yeux, vous pouvez me donner un verre d'eau, je ne verrai pas la différence. Et ça perd énormément en partage et en convivialité, et c'est assez frustrant effectivement de passer à côté d'un bon plat.
Le conseil d'Alex Vizorek, anosmique congénital.
Buvez de l'eau plutôt alors, parce que sinon à moyen terme ça va être dangereux. Je me suis posé cette question. Je pense que mettre 200 € de plus dans une bouteille de vin pour me faire plaisir n'est pas le meilleur investissement qu'on puisse faire, mais j'aime quand même les bons vins. Il y en a que je préfère à d'autres, donc c'est que le goût intervient dedans. Et pour moi, c'est jamais de l'eau, donc c'est que je ne dois pas être dans ce... Je crois que j'ai plus de goût que vous et sûrement moins d'odorat.
Roland Salès.
Oui, je voulais revenir sur la rééducation olfactive, parce que dans des ateliers olfactifs auxquels j'ai participé, j'ai pu voir des participants qui, d'une semaine sur l'autre, voire même d'un jour sur l'autre, récupéraient finalement la mémoire en fait de l'odeur, parce qu'ils sentaient quelque chose le premier jour et pour eux c'était complètement différent de la réalité de l'odeur. Une semaine après ou même le lendemain, à l'aveugle évidemment, on leur redonnait le même parfum et à ce moment-là ils faisaient la bonne dénomination. Donc ça veut dire qu'en fait le système il existe, il faut juste le rebrancher quoi, en quelque sorte.
Merci beaucoup Marie-Laure Zonshine d'être intervenue, on vous retrouve évidemment demain dans cette émission. Dans quelques instants nous verrons comment vivre la perte de goût et d'odorat et comment y remédier. En attendant on écoute Gorillaz et De La Soul.
Let's break it down on a camel's back. little at a time. Shoot, I'm stepping in harder this year. Care Bear ripping in harder this year. Watch me as I gravitate. Ha, 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 ha. We gon' ghost town, this Motown. With your sound, you in the blink. Gon' bite the dust, can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it until you chin it.
De la sous-interprétée Feel Good Inc.
Tu as le nez fin, c'est une évidence, jeune homme, mais je...
Mon nez connaît toutes les odeurs du monde.
Grand bien vous fasse.
Non, ne m'interromps pas quand je parle. Tu es plus qu'impertinent et vaniteux. Même moi, je ne connais pas toutes les odeurs.
Sur France Inter.
10h32 et on s'intéresse ce matin aux pathologies du goût et de l'odorat. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000. Petit rappel pédago.
Le nez permet de sentir les odeurs grâce à des cils qui les attrapent pour informer le cerveau.
Des cils comme ceux autour de mes yeux.
Tu crois qu'on peut sentir les odeurs par les yeux?
Oh non, ce sont de tout petits poils. Alors maintenant, tu sais pourquoi tu sens les odeurs?
Oui, les odeurs passent dans mon nez quand je respire et sont dissoutes dans le mucus. Ensuite, les cils absorbent les molécules odorantes et envoient un message au cerveau pour qu'il reconnaisse les odeurs. Salut !
Vous adorez ça, Adibou, hein, Alex Vizor. nous accueillons le docteur Justin Michel, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes chef du service ORL à l'hôpital de la Conception à Marseille. Quels sont les facteurs principaux de la perte d'odorat et de goût, docteur Michel?
Les facteurs, les causes, vous voulez dire?
Les
causes principales. Les grandes causes qu'on va retrouver, et on est en plein dedans, d'abord c'est les infections virales, avec le Covid, et mais aussi tous les rhumes de l'hiver qui chaque année nous fournissaient un lot de pertes d'odorat, mais qui était beaucoup moins important en volume que celui provoqué par le Covid. Ensuite, vous avez les traumatismes, dont vous avez parlé tout à l'heure. Il peut y avoir, quand il y a un traumatisme crânien à forte vitesse, un mouvement du cerveau qui va faire que les fibres des neurones de l'odorat sont sectionnées et que du coup, bah, ce sens est perdu, comme on pourrait couper un nerf optique et la vision n'y serait plus. Et puis, troisième grande cause, ce sont les maladies inflammatoires du nez et des sinus. Il y a beaucoup de gens qui ont de la sinusite chronique et cette sinusite chronique peut être associée, notamment quand il y a des polypes avec, à une perte de l'odorat. Et puis enfin, il y a des maladies neurodégénératives, c'est-à-dire des maladies qui cette fois vont pas toucher le nez, ni les sinus, ni même le nerf, mais l'organe de l'intégration qu'est le cerveau.
Et puis il faut peut-être également citer le tabagisme ou encore le vieillissement qui peut survenir.
Alors c'est pas des maladies, hein.
Ce sont pas des maladies, mais ce sont des facteurs qui peuvent impacter l'odorat et le goût, le tabagisme ou bien le vieillissement qui a un impact.
Alors le vieillissement, on appelle ça la presbyosmie, comme on peut avoir la presbyacousie ou la presbycie au niveau des yeux. C'est-à-dire qu'en vieillissant, effectivement, les sens se dégradent légèrement sans, en général, atteindre le stade de l'anosmie. C'est-à-dire qu'en général, on ne perd pas complètement l'odorat en vieillissant. Hein, quand il y a une perte complète, il faut chercher une cause derrière.
Raj Gurden, je rappelle que vous êtes neuroscientifique.
Oui, tout à fait. Oui, je confirme complètement ce que dit le docteur. On a, avec le vieillissement, une baisse effectivement de cette sensibilité olfactive. Alors, dans la population générale, si on prend un tenté aujourd'hui, on va avoir à peu près 15% de personnes qui vont présenter des problèmes olfactifs avec une baisse de leur sensibilité, qu'on appelle l'hyposmie. Et effectivement, après 65 ans, on va doubler, voire tripler ce pourcentage. Et donc, effectivement, il y a un affaiblissement lié au vieillissement complètement physiologique de l'organisme.
L'hyposmie,
oui. Comme l'a dit le docteur, l'anosmie reste quand même très très rare. C'est plutôt une diminution de cette sensibilité olfactive qu'une perte complète de cette sensibilité à terme.
Tiens, Pierre nous dit, en ce qui me concerne, c'est le phénomène inverse qui me pose parfois problème. J'ai un odorat hyper développé, ce qui est parfois très handicapant au point qu'il m'arrive de sentir le goût d'une odeur. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, sentir le goût d'une odeur. Mais avez-vous une explication, nous demande Pierre.
Alors, il y a très peu de personnes qui sont hyperosmiques comme ce monsieur, et il n'y a pas effectivement d'explication physiologique ou moléculaire pour l'instant sur ce type de problème. Tout ce qu'on peut faire, c'est effectivement travailler plutôt du côté émotionnel, apprendre vraiment à se calmer et ne pas subir ce stress, donc faire du yoga, du qigong, etc., pour vraiment essayer de se re-respirer normalement et se dominer, parce qu'on n'a pas malheureusement d'approche qui nous permette d'aider les hyperosmiques pour
l'instant. C'est souvent lié à une hypersensibilité.
Ça peut l'être, tout à fait.
N'oublions pas, on parlait de la perte d'odorat et de goût, que ça peut également être lié à des traitements contre le cancer, comme les chimiothérapies ou les radiothérapies. Roland Salès, je rappelle que vous êtes neurobiologiste.
Oui, effectivement, les neurones olfactifs, comme les cellules gustatives, se renouvellent constamment au cours de la vie. Et les traitements de chimiothérapie, justement, ciblent les cellules en cours de division. Donc, ces cellules sont malheureusement ciblées quelquefois. Et à ce moment-là, effectivement, on peut perdre partiellement, voire totalement, le goût ou l'odorat.
Clémence et Ultimo Ligné, vous venez de publier L'extraordinaire pouvoir de l'odorat.
Oui.
Vous voulez réagir?
Oui, on parlait tout à l'heure d'odeurs qui peuvent évoquer des goûts. Et en fait, il y a souvent les souvenirs, parce que quand on a, par exemple, on va sentir la vanille. Parfois, on va dire « je sens le sucré », alors qu'en réalité, on va penser à un moment où on a consommé de la vanille et cette vanille était associée à un aliment sucré. Donc, on va avoir l'impression de percevoir le sucre, mais finalement, on va percevoir l'odeur de la vanille qui va nous rappeler le sucre qu'on aura consommé au même moment dans le passé.
Question du docteur Adrien Chaboche.
Oui, je m'interroge en tant que médecin généraliste à propos du dépistage. Parce que dans la mission du médecin généraliste, nous avons un devoir de dépister les troubles de la vision, de l'audition. Alors l'équilibre, je dirais que c'est presque fortuit. Mais et puis il y a les infirmières scolaires aussi. Et je me dis, ça serait une incitation indispensable à ce que, par des moyens peut-être simples que vous allez nous indiquer, on pourrait identifier, mais dès l'âge au plus tôt, des dysfonctions sur cet appareil de l'odorat et du goût.
Roland Salès.
Oui, effectivement, moi je fais pas mal d'animations en maternelle, même en crèche d'ailleurs. Et à travers ces animations, on peut s'apercevoir qu'il y a des enfants qui ont des réponses olfactives plus ou moins importantes à ce qu'on leur propose. Alors, de là en faire un dépistage, pour le moment, on est dans le jeu, mais ça pourrait très bien rentrer dans ce cadre.
Radio Urbaine.
Comme l'a dit Alex, en fait, généralement, les problèmes olfactifs sont détectés autour de 8 à 10 ans, donc très très tard finalement dans le développement de l'enfant. Et avec l'association anosmie.org et un collègue de Roland qui s'appelle Benoît Chal, on est en train de travailler justement à mettre en place un protocole pour détecter en fait le plus tôt possible ces problèmes chez les enfants et essayer d'y remédier par exemple des techniques de rééducation olfactive pour les intéresser et enrichir leur environnement olfactif. Et ça, on sait que chez un enfant qui a vraiment une plasticité, une malléabilité et sensorielle et cérébrale importante, ça va vraiment apporter des bénéfices.
Clémence Lulti-Molinié, on a évoqué l'anosmie, mais il existe d'autres dysfonctionnements de l'odorat. Je pense à la parosmie. La personne qui en est atteinte perçoit une odeur différente de celle de la molécule en présence, c'est ça?
Oui, on s'en rend beaucoup compte là avec la Covid-19. En fait, on va présenter simplement l'odeur, par exemple, du café à une personne qui va percevoir le citron, donc une odeur qui n'a rien à voir avec la source qu'on présente à la personne. Et là, on parle de parosmie, mais on voit aussi des phénomènes assez curieux comme des fantosmies. Et là, ce sont des hallucinations. Donc on va percevoir des odeurs alors que rien n'est là pour générer ces réponses.
Et Pauline, souffre d'odeurs fantômes. J'ai eu le Covid et depuis j'ai des hallucinations olfactives. Parfois je sens une odeur de pain grillé ou de parfum pendant plusieurs heures et c'est pénible. Corinne, vous souffrez également de fantosmie, c'est ça ? Bienvenue.
Oui, c'est ça. Bonjour à tous. Effectivement, c'est de la fantosmie et moi ce sont des gaz d'échappement.
Ah.
Toute la journée.
Comment ça se traduit ? C'est, quelles que soient les odeurs, c'est une odeur de gaz d'échappement, c'est ça ?
Non, alors j'ai retrouvé après la Covid un petit peu de goût et d'odorat. Effectivement, comme Marie-Laure Sunshine, entre 2 sur 10 et 3 sur 10. Mais je suis submergée toute la journée, quoi que je mange, quoi que je fasse, assis sur mon canapé, dans le lit, n'importe où, en faisant la cuisine. De gaz d'échappement que je sens continuellement.
Radu Gurdane, expliquez-nous un peu ce qui se passe là dans ce cas-là.
C'est très très difficile à expliquer. Ça s'approche finalement au niveau ORL des acouphènes en fait qu'on peut avoir. Et en fait, c'est probablement, mais on n'a aucune preuve scientifique sur ce fait-là, que ces neurones olfactifs qu'on a dans notre nez vont être activés tout seuls. C'est-à-dire, on leur a rien demandé, mais tout d'un coup, comme les cellules ciliées de l'audition, ils vont se mettre à décharger et à donner de l'information au cerveau. Et généralement, ils donnent ces informations très souvent négatif, désagréable. Et là encore, la rééducation olfactive aide parce qu'on arrive à recentrer finalement notre attention sur des odeurs plutôt agréables d'ailleurs et à un petit peu dévier en fait ce cours très très angoissant et très difficile à vivre dans le quotidien comme madame. Et là encore, des cours de relaxation aident aussi à rattraper finalement ce vécu qui est très difficile.
Docteur Justin Michel, sur le cas de Corinne.
C'est un vrai problème, ces fantosmies, parce que on n'a pas vraiment de pistes pour les expliquer. Alors c'est vrai que le parallèle avec l'acouphène, il est intéressant, si ce n'est que l'acouphène, parfois on sait que c'est de la souffrance neuronale dans l'oreille interne et que on sait qu'en mettant un appareil auditif pour faire récupérer l'audition, on peut parfois améliorer. Et puis on a des masqueurs d'acouphène qui marchent, donc il y a des choses qui marchent bien pour les acouphènes, mais pour la fantosmie, on n'a rien, et si ce n'est effectivement la rééducation. Hein, il faut essayer de réencoder le système. Hein. La rééducation olfactive, c'est d'habitude vous sentez une odeur et ça vous évoque un souvenir. Et là, vous allez faire le chemin inverse. C'est-à-dire vous prenez une odeur, vous la mettez sous votre nez, vous savez que vous sentez de la vanille ou du citron, vous le lisez, vous le dites, vous l'écrivez pour que votre cerveau enregistre bien cette information. Et vous allez essayer de partir du souvenir que vous en avez pour le relier à la détection que vous avez maintenant que votre système a été modifié. C'est ça qui est très très important dans la rééducation. Et il faut donc éviter de faire de la rééducation à l'aveugle, c'est-à-dire sans savoir ce qu'on respire, parce qu'en fait, on ne se sert pas du coup de sa mémoire, et au contraire, on sature le système avec des odeurs qu'on ne détecte pas bien.
Alors,
il faut vraiment faire une rééducation guidée par ce qu'on sent.
Non, je suis absolument pas d'accord avec vous. Je pense qu'il faut absolument avoir les deux approches, c'est-à-dire, comme on l'a publié récemment, avoir une première approche à l'aveugle où on connaît pas l'odeur et ce qui stimule vraiment les récepteurs sans faire de biais et de cache finalement, de perturbation cérébrale sur le sens olfactif. Et puis dans un deuxième temps, effectivement, vous avez tout à fait raison, de réactiver la mémoire et donc il faut faire vraiment les deux essais. Il faut pas négliger l'aveugle.
Ce que vous voyez avec les patients et ce qu'on voit nous très souvent quand on fait l'olfactométrie, puisqu'on a défini un parcours d'hôpital de jour dans le service dans lequel on a un scanner, un TEP scanner cérébral qui montre des résultats très intéressants sur des hypométabolismes de la région amygdalo-hippocampique et de la région de l'odorat. Et quand on fait ces olfactométries à ces patients, ce qu'on voit souvent après le Covid notamment, c'est qu'il y a une très importante latence et une sidération du système qui s'installe beaucoup plus rapidement que chez un sujet sain. Et de ce fait, si vous gâchez un peu des cartouches à l'aveugle, ça peut être difficile pour certains patients après de ressentir les odeurs. Donc je crois qu'effectivement, peut-être les deux approches peuvent être intéressantes, mais dans la phase initiale, je pense qu'il faut travailler sur l'association du souvenir et de la détection.
Vous avez vu Alex Vizorek, on se croirait aux grandes gueules, là.
Mais là, on partait. Alors, c'est rigolo parce qu'évidemment, moi, je ne peux absolument ni intervenir ni trancher. Ça fait quand même 20 minutes que vous parlez d'essayer de le récupérer, et moi, je sais que non.
Allez, il est temps.
Mais c'est intéressant, ceux qui peuvent récupérer-le, bien sûr.
Il est temps de retrouver la chronique du docteur Adrien Chaboch qui remplace Baptiste Beaulieu ce matin.
France Inter.
grand bien vous fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, si ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Docteur Adrien Chaboche.
Docteur, je le sens pas. Un jour comme un autre, mais qui ne le sera plus par la suite. Il y a cette patiente qui est assise en face de moi. Vous savez, Ali, tout commence comme d'habitude, mais il y a un rien qui vous fait soudainement basculer de ce dont vous pensiez être certain à un sentiment où tout semble étrangement différent. J'étais étudiant en médecine interne, une discipline qui me faisait penser tout savoir, tout connaître. Et elle est là, elle, me regardant fixement. Elle hume l'air autour d'elle et me dit « Docteur, je le sens pas ». « Mais quoi donc? Êtes-vous en train de me dire que vous avez une mauvaise intuition ?»« Non, non, me dit-elle. Bah, alors que vous manquez de confiance, vous êtes dans le doute. »« Non, non, docteur, je ne sens rien. » C'est à ce moment où on oscille. D'un côté, ce rationalisme relativisant à tout va, du genre « Oh, ce n'est que ça !» où on la réconforterait faussement, lui faisant croire qu'on a compris. De l'autre côté, c'est de se laisser tomber dans l'inconfort de l'incertitude. L'écouter, être là, vraiment là, avec elle, en acceptant de ne rien savoir, de lâcher les connaissances et les bons conseils faussement rassurants. Elle ne sent rien, pas d'odorat, pas de goût. Et je vois, au cerne sous ses grands yeux, à sa voix monocorde et à son visage triste, qu'avec son odorat, c'est le goût de vivre qui s'est aussi envolé, tel un parfum oublié. Je ne sens pas l'odeur des produits médicaux dans l'hôpital. Je ne sens pas le parfum de mon mari, la peau de mon bébé. Je n'ai pas senti l'odeur de mon voisin dans le métro par cette chaude journée. Je ne goûte plus les plats que je fais à ma fille. Je n'ai pas senti le poulet brûlé dans le four. De toute façon, les plats se résument à un éternel goût de carton. C'est vertigineux ce qu'elle me raconte. Ali, combien de fois par jour prenez-vous le temps de sentir ?
Mais sentir quoi ?
Mais nos cinq sens. Voir, entendre, toucher, sentir, goûter, porter notre attention dessus. Et tenez, je pense aussi fortement à tous les patients vertigineux qui n'ont plus leur équilibre, celui qui nous fait tenir debout et où tout tangue dans leur vie. Je pense aussi à tous les patients qui souffrent de maladies des nerfs et qui n'ont plus la joie de sentir le sable chaud entre les orteils, le caillou dans la chaussure. Je ne touche plus terre. Nous avons oublié ce qu'il y a d'essentiel. Écoutez donc, essentiel. Même les mots se moquent de notre légèreté, de ne pas nous rendre compte à quel point c'est vital. Et je me rappelle ce passage de cette pièce magique d'Éric Emmanuel Schmitt, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, qui raconte magnifiquement l'initiation à la vie d'un jeune juif, Mohamed, qui n'a plus de parents et qui trouve refuge auprès d'un vieux musulman, Monsieur Ibrahim, qui tient une épicerie en bas de l'immeuble. Là, ensemble, tous les deux, ils vont faire un voyage. Il le fait entrer dans une église. « Ça sent la bougie ici, » dit Mohamed. Et Monsieur Ibrahim lui dit « Oui, c'est catholique. » Puis un peu plus loin, « Ici, ça sent l'encens. » « Oui, c'est orthodoxe ici », lui répond-il. Et encore un peu plus loin, Mohamed, de toute la spontanéité de sa jeunesse. « Ah, mais ça sent les pieds ici !»« Oui, Mohamed, nous sommes dans une mosquée. Ici, on se sent les uns, les autres. On se sent présent, on est humain, ça le rassure. » Et c'est beau de découvrir nos sens comme on le fera avec une œuvre d'art. On ne juge pas, on vit une expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Allez, Ali, tout le monde, je vous invite à faire l'expérience que cette patiente m'a apprise. Manger en pleine conscience. Ce soir, au dîner, fermez les yeux. Respirez, ne faites rien. Soyez juste vraiment là. Laissez votre voisin de table vous faire goûter ce que vous ne voyez pas et juste sentez, devinez, vivez. C'est humain. C'est plein de bon sens.
La chronique d'Adrien Chaboche. Allez, on verra tout à l'heure quelles sont les thérapies pour retrouver le goût et l'odorat, comment rééduquer ces deux sens. En attendant, on écoute la femme.
Je suce le sang de mon prochain. Je sème la mort. Je cherche le cœur de mon amant pour y planter mes dents. Je t'emporte dans une autre vie, là-haut sous les étoiles d'une autre galaxie. Elle a choisi la mort
je sais que j'ai tort de te faire faire ce sacrifice. Rejoins-moi dans les abysses, tu deviendras mon complice. Car je suis le sang de mon prochain.
La femme interprétait le sang de mon prochain, la femme qui participe au concert diffusé à 16h en direct de l'Olympia à l'occasion de la fête de la musique, également au programme à 15h, Edith de Préto, et puis de 20h à 23h toujours en direct de l'Olympia, mais avec du public, les concerts de Feu Chatterton, Clara Luciani et London Grammar.
Grand bien vous fasse, Ali Rebi. Sur France Inter.
Et on s'intéresse ce matin aux pathologies du goût et de l'odorat. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000. Et j'aimerais qu'on accueille Jean-Michel Maillard. Bienvenue. Bonjour Jean-Michel Maillard.
Oui, bonjour.
Alors vous, vous avez perdu l'odorat suite à un traumatisme crânien. Et vous avez collaboré et participé à un nouveau protocole de rééducation olfactive. Expliquez-nous. Et vous faites partie d'ailleurs de l'association anosmi.org.
Tout à fait. Donc, c'est une association que j'ai créée suite à mon accident et suite à la découverte de mon anosmie. Donc, oui, j'ai, avec Raj Gurdon, on a créé un protocole de rééducation olfactive, donc, sur lequel on a travaillé fin 2018. Et donc, on l'a mis au point pour début 2019. Et voilà, il est basé sur les travaux de recherche que Raj avait mis à notre disposition au niveau de l'association. Et puis, voilà, il a eu un grand succès, malheureusement, avec le Covid. Hein. Mmh. On a dépassé les 100 000 téléchargements et il a été distribué dans les hôpitaux, dans les cabinets médicaux, cabinets ORL, etc.
Du point de vue du patient, expliquez-nous ce protocole, Jean-Michel Maillard.
Alors, ce protocole, il est tout simple, puisqu'il consiste à solliciter son odorat deux fois par jour, le matin, le soir, assez loin des perturbations olfactives comme le repas ou le brossage des dents, des choses comme ça. Il y a quatre odeurs ou six odeurs. On a mis six odeurs sur lesquelles le patient doit se concentrer, essayer de voir s'il arrive à détecter un flux odorant. Et s'il arrive à le détecter, alors il identifie l'odeur qu'il est en train de sentir pour cette fois-ci solliciter la mémoire olfactive. Et donc vous avez votre petit exercice qui dure entre 5 et 10 minutes tous les matins et tous les soirs. Et qui permet de favoriser la neurogénèse, de favoriser le renouvellement de l'odorat. Voilà.
Raj Gurdon.
Oui, tout à fait. Donc les quatre huiles essentielles qui avaient été publiées initialement en 2009 par le professeur Thomas Hummel à Dresde sont rose, citron, clou de girofle et eucalyptus. Et nous, on a rajouté aussi, pour stimuler le système trigéminal dont on a parlé tout à l'heure, la menthe poivrée et pour un contexte bienveillant, le café. Mmh. Et il faut dire, et Jean-Michel l'a éprouvé, on l'a fait ensemble, ce qui est difficile dans ce protocole, c'est de tenir sur le long terme.
C'est-à-dire, pendant combien de temps
il faut faire deux fois par jour pendant au moins 12 semaines, voire 16 semaines, c'est mieux, voire 18 semaines. Donc, vous voyez, c'est plusieurs mois. Et il faut absolument le faire tous les jours. Si vous voulez activer vos neurones, vos détecteurs et renouveler votre muqueuse qui a été vraiment attaquée par le coronavirus, notamment, il faut absolument le faire tous les jours.
Qu'avez-vous constaté, Jean-Michel Maillard?
Moi, j'ai constaté, parce que évidemment, on a fait ça de manière très scolaire, avec un petit livret où on suit nos résultats tous les jours. Et moi, j'ai constaté que j'ai récupéré quelques odeurs. Alors moi, j'ai la particularité d'être anosmique traumatique. Je suis pas anosmique viral, comme Raj est en train d'évoquer. Donc moi, c'est encore plus difficile, puisque le système est endommagé. Mais malgré ça, j'ai retrouvé quelques sensations. Je suis capable de reconnaître un café dans une pièce. Voilà. Je fais la différence entre la menthe poivrée et l'eucalyptus. Je détecte l'huile essentielle de rose. Vous voyez, ce sont des petites victoires, mais ce sont des émotions. Il faut bien comprendre que c'est le sens de l'émotion.
Alex Vizorek, est-ce que vous pourriez bénéficier de ce type de rééducation olfactive ou...
Alors tout dépend du vécu d'Alex. Effectivement, si c'est un trauma comme Jean-Michel, il peut y avoir effectivement une récupération, même si ça fait très très longtemps.
Et quand c'est congénital?
Alors, si c'est congénital totalement, avec des récepteurs qui ne sont pas exprimés et des gènes qui sont pas fonctionnels, là il y a rien à faire. On peut pas récupérer.
Et puis vous l'avez dit tout à l'heure, vous ne souhaitez pas particulièrement.
Non, je pense pas. Mais c'est amusant parce que
régulièrement, les gens essayent de me faire sentir des trucs qu'on ne ferait pas avec un autre sens.
Exactement.
On dirait pas un aveugle, mais tu vois pas un tout petit peu quand même quelque chose.
C'est vrai.
Il y a un sourd, allez, quand je crie très fort, t'entends quand même. Et bien, avec nous, on le fait très souvent. Et il y a aussi ce côté un petit peu rigolo pour les gens qui ne connaissent pas. C'est-à-dire que j'ai déjà raconté mon handicap, je vais pas l'appeler comme ça parce que je me rends bien compte que c'est sans doute le sens que j'aurais choisi même moi-même si j'avais dû en perdre. Et les gens vont dire, ah, c'est drôle. Mais c'est vrai qu'on dirait jamais ça à un sourd. Oh, c'est quand même drôle, hein, ça, tu n'entends rien.
Mais Alex, c'est vraiment un handicap sensoriel. Hein. C'est aussi handicapant que d'être aveugle ou sourd.
Je pense pas quand même.
Ah si, c'est catastrophique. On a des études qui montrent toute l'insécurité que ça...
Quand on le perd.
Oui, je suis d'accord. C'est une insécurité absolue de son corps, de son contexte, de son lien aux autres. On a même montré qu'il y a des gens qui perdaient vraiment leur emploi parce qu'ils sont dans une telle insécurité, un tel stress, que c'est un handicap. Et d'ailleurs, Jean-Michel et l'association travaillent fortement pour que cet handicap soit reconnu. On travaille auprès des députés pour que ça soit repris, en fait.
Comment retrouver ce protocole, Raj Gurden?
Alors, sur le site web de l'association, anosmi.org, il y a une rubrique, et d'ailleurs, il y a plusieurs langues. C'est traduit au niveau européen, d'où le succès aussi. Et puis, il y a, comme je vous l'ai dit, pour accompagner l'application web covidanosmi.fr. Et si vous voulez soutenir l'association anosmi.fr, où il n'y a que des bénévoles et beaucoup de demandes, c'est Hello Asso.
Clémence Lilti-Molinier, comment améliorer ses capacités olfactives quand on ne souffre pas d'anosmie ou d'autres pathologies de l'odorat?
Alors, je pense qu'il y a vraiment la notion de sémantique, en fait, avec le vocabulaire qu'on peut employer pour décrire les odeurs qu'on sent. Parce que l'idée, c'est que souvent, on va penser un moment, mais on a du mal à mettre un mot sur une odeur. Et là, ce qui va être très simple à faire, c'est en groupe ou seul même, toujours d'associer une odeur à un souvenir et essayer d'associer ce souvenir à une odeur en remontant un peu le fil jusqu'à comprendre de quelle odeur exactement on parle, en fait.
Docteur Justin Michel, un mot de conclusion?
Qu'il faut aller consulter les ORL et il faut que les ORL s'investissent un peu plus dans la prise en charge de ces troubles, parce que l'histoire de M. Maillard, elle est édifiante. Il a créé ça parce que personne ne s'occupait de lui et qu'il y avait un grand vide. Et je crois que c'est notre travail, grâce à tous les travaux qui ont été présentés aujourd'hui dans votre émission de façon très intéressante, c'est vraiment aux ORL de proposer des solutions aux patients et d'essayer d'avancer main dans la main avec les associations.
Roland Salès.
Oui, parce que le sens finalement olfactif est tellement lié aux émotions, aux souvenirs, au système de récompense, c'est-à-dire quelque chose qui nous fait du bien-être, que vraiment ça vaut le coup de le récupérer.
Et on s'intéressera davantage dans une autre émission à l'agueusie, aux pathologies du goût. Merci à tous, merci d'être venus. Alex,
Merci. Viserais
qu'on ne vous retrouve pas aujourd'hui à
17h. Non, mais dès demain, à 8h55.
Et à 17h évidemment, avec Par Jupiter. Merci à tous. Hein. Clémence Lilti-Molinier, je signale la parution de votre livre « L'extraordinaire pouvoir de l'odorat ». Merci Raj Gurden, Roland Salès et Justin Michel. Demain, ce que le foot raconte de nous et de notre société.